C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Dans C'est ludique, aujourd'hui je vous propose de retourner à l'époque du Japon féodal. Vous allez devoir fabriquer des katanas, ce sont des sabres que vous allez offrir au plus puissant gouverneur du Japon que l'on appelle les daimyo. Mais pas seulement, vous allez aussi concevoir le katana du shogun, la personne la plus puissante à l'époque du Japon. Voici donc Shogun no Katana, un jeu de Federico Randazzo et P.S. Martensen, localisé en France donc par Atalia. Shogun no Katana, c'est un jeu expert de gestion et de pose d'ouvriers où en tant que maître forgeron, eh bien vous allez réaliser des actions dans les différents endroits du Japon pour fabriquer ces sabres. Mais attention, vous n'avez que 4 manches pour remporter la partie. Chaque joueur récupère son plateau Washitsu, c'est une grande pièce au Japon et c'est ici que se trouvent vos ouvriers. Et vous récupérez aussi votre plateau forge. C'est parti, la fabrication va pouvoir commencer. Au programme, achat de ressources, prise de commande, décoration des sabres et livraison bien entendu. Alors comme dans les jeux classiques de pose d'ouvriers, vous prenez à votre tour un de vos ouvriers. À noter, ce sont de très belles figurines. À vous de la placer sur l'un des lieux disponibles du plateau et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs aient posé tous leurs ouvriers qu'ils ont de disponibles. On va pouvoir prendre des tuiles sabres à placer dans notre forge pour les réaliser, d'acheter les ressources nécessaires pour réaliser ces sabres, de travailler à forger vos sabres, d'améliorer la qualité des finitions de sabres, de bénéficier d'avantages particuliers de la part du shogun ou de passer à premier joueur. On va s'intéresser aux différents lieux de ce plateau. Alors on va commencer par les maisons des daimyo. Il y en a 4, c'est là que vous allez prendre la commande des daimyo. Ce sont des tuiles creusées où il faudra poser des petits cubes, les ressources indiquées dans un ordre bien précis que vous avez stocké dans votre forge. Vous posez cette tuile dans l'un des emplacements de la colonne la plus à gauche de votre forge. Bonne nouvelle, lors de la prise de commande, les daimyo vous payent en avance. Vous récupérez donc un certain nombre de pièces, mais bien sûr, ça ne sera pas suffisant pour acheter des ressources. Il faudra trouver de l'argent ailleurs. C'est au marché que vous pourrez acheter les ressources du jeu. Lac, bois, acier et galucha, elles ont un certain coût et vous donnent une carte bonus. Les ressources, vous les stockez dans la case appropriée de votre plateau forge à droite. 3 autres emplacements sur le plateau principal. L'académie, pour apprendre à décorer les sabres, vous changez vos cubes ressources par des cubes en transparence. Les ornements donc vous feront gagner plus de points et plus de pièces. Attention, par sable, vous ne pourrez améliorer qu'une ressource d'un même type. Dans le palais du shogun, en plaçant l'un de vos ouvriers, vous gagnez ce qui est indiqué dans les salles où ils sont présents. Vous pouvez envoyer jusqu'à 3 membres de votre famille, mais vos adversaires qui ont des membres de leur famille présents pourront aussi faire une action. Enfin, en payant une certaine somme selon le tour, vous pourrez récupérer 1 ou 2 moines au temple qui représentera 1 ou 2 ouvriers supplémentaires pour ce tour. Si vous ne voulez pas placer d'ouvriers sur les différents lieux du plateau principal, eh bien vous pouvez en placer un en face d'une colonne ou d'une ligne pour activer toutes les tuiles en face de celle-ci dans votre forge et réaliser ainsi les commandes des daimyo. Vous allez déplacer sur votre plateau un petit peu comme au taquin vos tuiles et ainsi ajouter vos ressources stockées. Ces déplacements sont assez simples à faire, mais il faut bien anticiper et optimiser vos déplacements, car jamais 2 tuiles ne peuvent se retrouver sur la même case. Et il faut aussi respecter les ressources à poser dans l'ordre chronologique. Je ne peux pas mettre du bois avant de l'acier ou vice-versa. Moins il y a de ressources sur une tuile, plus vite la commande sera livrée, mais forcément elle rapportera moins de points. Mais comme vous allez la placer sur votre plateau Washitsu, elle vous permettra plus rapidement de débloquer des ouvriers qui attendent sur les emplacements et vous permettront de faire plus d'actions aussi par la suite. On ne peut prendre une ressource que si elle a été stockée sur notre plateau de forge, bien évidemment. Alors, mais l'une des choses importantes est de livrer le sabre du shogun. Et vous allez le créer petit à petit en copiant 1 ou 2 ressources d'un katana déjà livré. Il ne faut pas traîner pour le commencer et surtout pas le négliger car c'est lui qui va vous rapporter le plus de points. Et il me semble compliqué, en tout cas, c'est jamais arrivé dans les différentes parties que j'ai faites, de gagner sans avoir réalisé la fabrication du shogun. Alors après chaque manche, n'oubliez pas de remettre les moines au temps et vos ouvriers sur votre Washitsu. On mettra aussi des nouvelles tuiles sabres dans les maisons des daimyo. À la fin de la 4e manche, on va compter les points. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Les pièces, vos ressources non utilisées, les katanas que vous avez livrés, votre shogun, les points du Shashimono représentant donc les différentes maisons des daimyo et différentes cartes honneur et déshonneur. Et bien entendu, il y a pas mal de cartes bonus, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce jeu. Une mécanique originale pour ce jeu de gestion et de placement d'ouvriers. Les illustrations sont magnifiques, une super qualité d'édition avec des tuiles double couche et beaucoup de matériel. On est clairement dans le thème. Il existe aussi un mode solo que je vous laisserai découvrir. Alors parviendrez-vous à satisfaire le shogun? je vous le souhaite, mais ça ne sera pas si facile que ça. Donc Shogun no Katana est un jeu expert que vous pouvez retrouver dans toutes vos boutiques. C'est distribué par Atalia. Allez, d'ici quelques instants, c'est Rétroludique. On revient sur un jeu un petit peu plus ancien avec Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et le jeudi, on retrouve Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes pour Rétroludique. Salut Jonathan.
Salut Mathieu, salut à tous.
Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'un jeu qui s'appelle Paper Tales.
Ouais, je voulais vous parler de Paper Tales de Masato Uesugi. Alors dans Paper Tales, on est sur un jeu de construction de tableaux de cartes, un peu à l'instar d'un Seven Wonders, un Wingspan ou un Res Arcana.
Ouais.
Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans Paper Tales, c'est un jeu qui est sorti il y a pas mal d'années et pour moi qui reste une référence dans le genre, c'est que on a une base qui est très classique, qui ressemble beaucoup à Seven Wonders.
D'accord.
Donc qui est assez simple à prendre en main pour des gens qui auraient un peu l'habitude des jeux de société, mais derrière ça, on va voir des mécaniques très très originales qui vont se rajouter par-dessus. Le principe du jeu, donc comme je disais, c'est simple, on va faire, alors je vais sortir des gros mots, on va faire un draft.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on va avoir des cartes en main, on va tous en même temps en choisir une qu'on garde et passer le reste des cartes à notre voisin.
Mmh.
Et on continue tous comme ça jusqu'à ce qu'on ait sélectionné quelques cartes. Donc ça, c'est repris de Seven Wonders, qui avait beaucoup marqué dans le milieu du jeu de société à l'époque. Et avec les cartes qu'on a sélectionnées, du coup, on va pouvoir les payer pour les construire dans notre royaume. Donc c'est comme ça qu'on fait notre petit tableau de cartes.
D'accord.
On enchaîne avec une petite phase militaire, encore une fois, qui ressemble à Seven Wonders, où on va compter la force de nos unités, puis on va marquer des points de victoire si on est plus fort que nos voisins. Donc ça, c'est très classique, c'est très efficace, hein, du coup, c'est fluide, on joue tous en même temps. Là où c'est beaucoup plus original, c'est que nos cartes sont des personnages. Ces personnages vont donc, à chaque manche, vieillir. On va mettre des petits marqueurs de vieillissement dessus.
Ouais.
Sauf qu'ils étaient déjà vieux, ils vont mourir et nos cartes vont partir.
Ah.
Donc, il y a un vrai côté de tempo à gérer dans le jeu. C'est-à-dire que si on veut jouer des cartes qui vont bien ensemble, eh ben, il faut pas trop traîner. Il faut les jouer à des tours qui sont assez rapprochés pour pouvoir en profiter. L'autre subtilité du jeu, c'est qu'on peut pas jouer autant de cartes qu'on le veut. On est limité à 4 cartes dans notre tableau. Donc c'est très contraignant, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut jouer, on va pas tout garder, essayer d'optimiser au mieux comme ça.
Ouais,
et la grosse différence avec un jeu comme Seven Wonders, c'est que là on va être sur quelque chose peut-être d'un petit peu plus fin, avec une sensation de carte à effet. D'ailleurs toutes les cartes du jeu sont très marquées, très différentes, permettent de tenter des stratégies diverses et variées à chaque partie. Donc ça va plus loin que du Seven Wonders, mais tout en étant quasiment aussi accessible.
D'accord, ok. Et du coup, on est sur... parce que tu disais 4 cartes, c'est pas beaucoup devant soi.
Eh ben 4 cartes, c'est très peu, ouais, effectivement. Donc c'est ce qui demande de faire énormément de choix durant la partie.
Ouais.
Alors, en sachant que de toute façon, vos cartes vont mourir. Hein, donc de toute façon,
oui.
Elles vont partir, on va en mettre des nouvelles. On a très peu d'argent aussi pour pouvoir jouer ces cartes, donc faut faire les bons choix. Ah, ça, c'est vraiment le plaisir du jeu. Hein. C'est dans ces choix, dans ces renoncements, dans le fait de pas pouvoir tout faire, quoi, que c'est très plaisant,
ouais,
et d'une partie à l'autre de faire des choses totalement différentes.
On est sur un univers thématique un petit peu fantastique.
Carrément fantastique, ouais, avec un style graphique, moi, que je trouve très original et très sobre. C'est Christine Alcouf qui a fait les illustrations de Paper Tales.
Ouais.
Donc ouais, c'est très classe, très élégant, la belle boîte blanche très 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 sobre et très très classe. Le truc que j'ai oublié de dire aussi, ce qui est très plaisant dans le jeu, c'est son dynamisme. Le fait que vous allez faire une partie en 30 minutes, peu importe le nombre de joueurs, ce qu'on fait, on enchaîne toutes les phases de jeu en simultané.
Ah ouais, donc c'est rapide.
Ouais, ça c'est rapide. Donc c'est un jeu qui se faisait plus ces dernières années, Paper Tales, malheureusement. Alors pour moi, ça reste l'un des meilleurs jeux du genre. Et il est ressorti l'année dernière. Donc il est ressorti dans un format un petit peu différent, il est ressorti dans ce qu'on appelle une big box.
Ouais.
C'est-à-dire que vous allez retrouver à l'intérieur le jeu de base, l'extension qui se faisait à l'époque, et la nouvelle extension.
Okay.
Donc ce qui est plutôt appréciable, ça fait une boîte qui n'est pas excessivement chère, et qui vous permettra d'avoir énormément de cartes différentes du coup grâce à toutes les extensions, et surtout la possibilité de jouer de 1 joueur jusqu'à 7 joueurs, le tout en 30 minutes.
7 joueurs, comme Seven Wonders, dis donc.
Ben ouais, du coup, très comme Seven Wonders, mais ça s'y prête bien.
Très bien, donc ça s'appelle Paper Tales et c'est donc de nouveau disponible. Merci beaucoup Jonathan.
Merci à toi Mathieu.
À la semaine prochaine, salut.
Salut.